qu'est-ce qui se joue dans un objet connecté et qui ne serait pas possible avec une poupée ou avec un château de sable ou avec un jeu de cartes ou voilà, avec un objet qui ne serait pas un objet connecté.
Alors, l'interactivité, c'est quand même vraiment ce qui est le plus important dans le numérique, c'est interactif. Donc on interagit, on s'inter-influence, on va agir sur quelque chose qui va nous le rendre, qui va nous donner une réponse qui n'est pas forcément celle qui est attendue, et on va élaborer quelque part une stratégie en co-construction avec, avec l'objet. Il interagit avec nous, nous interagissons avec l'outil. La poupée, on lui fait dire ce qu'on veut, la poupée fera rien. L'ordinateur, on interagit avec, il aura éventuellement sa réponse en plantant ou en allant plus vite que prévu. On va être potentiellement surpris par la réponse de l'outil. L'enfant qui s'émerveille parce que l'outil, quand il le touche, il a un impact immédiat, il change sa qualité, il se transforme, etc. C'est des choses qui sont, en termes d'expérience corporelle, très importantes. On ne peut pas vivre ailleurs, en fait. Il y a des choses comme ça dans l'interactivité qui sont vraiment très importantes. Les outils numériques nous apporte une expérience corporelle et sensorielle qui est différente, qui est autre. Exactement comme quand on lit un livre, c'est une expérience spécifique. Quand on regarde un film, c'est une expérience spécifique. Quand on écoute un opéra, c'est une expérience spécifique. Le numérique va nous apporter une interactivité qui offre elle-même une expérience spécifique, qui est plus ou moins aboutie, plus ou moins travaillée, avec plus ou moins de messages, plus ou moins artistiques, plus ou moins culturels, plus ou moins pédagogique. Après, on y met ce qu'on veut. Exactement comme dans le cinéma, le film, n'importe quel art, en fait. On peut avoir du bas de gamme, du haut de gamme, du blockbuster, de l'indépendant, de l'élite. Voilà, on a de tout. Les jeux vidéo, le numérique, c'est la même chose. On a du tout et n'importe quoi. On a beaucoup de n'importe quoi, il faut bien l'avouer. Mais c'est des choses qui peuvent nous apporter des éléments de construction et on pourra toujours y trouver potentiellement quelque chose sur lequel s'appuyer d'intéressant, exactement comme avec un autre média. Et c'est vrai que l'interactivité, c'est quelque chose d'important, parce qu'un enfant qui va toucher un écran, il va pouvoir réajuster sa stratégie en fonction de ce que l'écran lui répond. Alors que quand il joue, il aura sa propre stratégie qui va changer en fonction de l'environnement qui se module en même temps qu'il est en train d'interagir avec. Mais c'est pas la même chose que quelque chose qui répond immédiatement à votre action. Un enfant qui va jouer avec ses cubes, il va pouvoir les empiler, se jeter dessus, les désempiler, refaire pareil, refaire différemment, changer de stratégie. Mais il aura une réalité tangible dans les mains. Un enfant qui va faire la même chose avec un iPad, avec une tablette, il sera peut-être tenté de refaire la même chose à l'identique pour voir s'il peut exactement le refaire parce que c'est numériquement et qu'il ne peut pas le toucher. Donc pour se rassurer, il aura peut-être une autre stratégie. Ou au contraire, il sera tenté de faire tout et n'importe quoi qui n'aura pas de logique physique parce qu'il n'y a pas la gravité et la relativité à prendre en considération. Et donc il apprendra d'autres repères physiques. Ce sera d'autres repères physiques.
Par exemple, si
un enfant qui se jette sur ses cubes, il n'éprouve pas la réalité des cubes, à savoir que les cubes dans l'espace, ils retombent et qu'ils ont une solidité, que s'ils sont en bois, bah, il va se faire mal dessus, que s'ils sont en plastique, ils vont peut-être casser, et que s'ils sont en verre, ils seront déjà détruits. Comment on reproduit cette réalité physique avec un iPad ? Un enfant qui va bouger des cubes sur un Tetris, ça ne restera que de la spatialité. Et par contre, il ne sera pas en 3D. Il n'aura pas de poids, il n'aura pas de sensation entre ses doigts. Donc, il y a un développement qui ne se fera pas, et il y a un autre développement cognitif qui se fera. Donc,
c'est
des outils qui vont être complémentaires dans, oui, justement, l'apprentissage de l'enfant. On n'est pas sur les mêmes modes. L'enfant qui va être sur une tablette, il va développer une intelligence en termes de planification. Il va être dans la planification stratégique, puisque chacun de ses clics équivalent à un choix. Et que pour réussir à aboutir à un objectif, il faut faire une succession de choix qui sont inconscients, puisqu'ils n'ont pas le temps d'arriver au seuil de la conscience, ils sont extrêmement rapides. Donc on est tout le temps en train de réfléchir. On favorise la dextérité, on favorise la psychomotricité fine, on favorise l'élaboration de stratégies. Un enfant qui est en âge, bon, qui a les 4-5 ans, plutôt 5 ans, il peut, grâce aux applications ou aux jeux vidéo, vouloir apprendre à lire plus vite pour être débarrassé de ses parents parce qu'il ne veut pas qu'on lui lise les consignes, par exemple, et qu'il veut pouvoir être indépendant. L'enfant, il va apprendre les codes extrêmement rapidement pour pouvoir interagir avec l'outil sans avoir besoin d'aide et il va s'autonomiser. grâce à l'écran, en fait, il va gagner en autonomie finalement beaucoup plus vite, parce qu'il va vouloir pouvoir s'en servir assez rapidement, et il va retenir quels sont les schémas en fait qui se passent systématiquement de la même manière. Donc un enfant en fait qui est sur un écran interactif, il va être extrêmement concentré, il va mémoriser énormément de choses, il va apprendre de ses propres stratégies en essai-erreur, et c'est ça en fait qui est très intéressant, c'est qu'il va construire sa stratégie au fur et à mesure que finalement l'outil interagit avec lui. Après, le gros problème, c'est qu'un enfant tout petit, si on le laisse sur une tablette ou un écran tout seul, bah, il parlera jamais. Parce que s'il n'y a pas un adulte pour le solliciter ou pour lui faire parler et mettre des mots sur ce qu'il est en train de voir et ce qui se passe à l'écran, d'une, il comprendra jamais, parce que la physique, elle est hors des lois physiques telles qu'on les conçoit, donc il n'aura jamais de repère ni de la réalité ni de son écran, il comprendra pas les lois physiques, l'enfant il parlera pas, et il sera éventuellement dans une pensée zapping permanente, puisqu'il passera d'un objet interactif à un autre sans avoir de stabilité, de continuité avec des repères tangibles. Donc c'est vraiment très important qu'un enfant petit, hein, vraiment je parle à 3-6 ans, enfin 0-6 ans, il soit accompagné en permanence d'un adulte pour mettre des mots avec lui sur ce qui se passe à l'écran. Si on est dans une complémentarité comme ça, pour l'enfant, il a tout à gagner, parce qu'il va apprendre à empiler des cubes numériques plus empiler des cubes réels. Il va apprendre à faire des additions d'une certaine manière, écrites d'une certaine manière sur écran. Il va apprendre à le faire sur papier. Il va s'approprier les chiffres différemment. Il va les spatialiser différemment. Et tout ça, ça va renforcer en fait son expérience corporelle de l'apprentissage. Comme tout passe par le corps, eh bien, tout apprentissage passe en même temps par le corps. Donc on n'est pas dans de la théorie ou de l'apprentissage par cœur. On est dans de l'apprentissage qui passe par la main, qui passe par le corps, qui est d'abord passé par le cerveau et qui donc finalement est une succession de tâches cognitives qui développe tout un tas de fonctions et de capacités cognitives chez l'enfant, mais qui mérite d'être reprise toujours par un adulte. On ne peut pas laisser un enfant tout seul dans tous les cas, même si c'est merveilleux.
On pourrait penser que le jeu vidéo ne peut-être donne une fausse autonomie, parce qu'au bout du compte, il y a un programme duquel l'enfant ne peut pas s'extraire. L'enfant ne peut pas modifier le programme.
Alors, si, parce que si l'enfant est très curieux et qu'il a envie de dépasser ses limites, il pourra le hacker, le logiciel, il pourra le craquer, il pourra le recoder à sa manière, comme beaucoup de jeunes le font aujourd'hui. Des gamins de 10-12 ans qui refont leur logiciel ou qui réussissent à trouver le code source pour en faire leur propre mode, qu'ils vont mettre en ligne parce que ce qu'ils avaient à leur disposition ne leur convient pas, il y en a beaucoup. Mine de rien, il ne faut quand même pas sous-estimer la puissance de ce qu'un enfant qui a des connaissances en informatique est capable de faire aujourd'hui pour son propre bien-être, on va dire. Parce que concrètement, il n'y a pas d'industrialisation derrière, il n'y a aucune autre volonté que la propre jouissance instantanée, à savoir, le logiciel ne me permettait pas de, et bien tant pis, je vais contourner. Comment je contourne ? Alors des fois, on peut lancer un logiciel qui va nous permettre de tricher. Des fois, on va pouvoir lancer un plugin qui va permettre de contrer quelque chose. Et puis des fois, il faudra aller coder dans le dur. Les enfants, ils n'ont aucun problème à faire ça. On voit des enfants qui sont démunis dans les apprentissages, on a l'impression d'avoir des bœufs en classe qui ne veulent plus rien apprendre. C'est le constat que tout le monde fait, c'est des bœufs, ils ne veulent plus rien apprendre, c'est l'échec. Et pas du tout. Ils ont une soif de savoir et de curiosité, les jeunes, qui est indéniable. Sauf qu'il faut trouver le bon fil. Donc un enfant qui s'intéresse à n'importe quelle application ou jeu, on peut lui proposer de le recoder ensemble. On n'y connaît rien, lui non plus. On peut faire ensemble. Hein, on peut montrer qu'on peut mutualiser. L'enfant, il sait faire techniquement, mais il ne sait pas penser. L'adulte, il ne sait pas forcément faire techniquement, mais il sait penser. Il a le recul et il sait où trouver l'information. On met un parent, un enfant, un adulte, un enfant ensemble, on a exactement ce qu'il faut de manière parfaite pour construire une application ensemble. On n'est pas d'accord avec ce que son enfant fait en termes d'application, bah, construisons-en une ensemble. Faisons des défis ludiques ensemble avec des applications qu'on trouve gratuitement en ligne et créons notre propre jeu avec des briques et des braques comme on l'aurait fait avant pour se créer un faux pistolet avec un bâton. C'est une histoire aussi de puissance symbolique. On peut proposer tout un tas de choses à des enfants pour qu'ils s'approprient les codes. Un enfant qui est bloqué par son jeu, il va chercher des solutions. Hein, la majorité des gamins, ils jouent à 8-12 ans, 8-10 ans, ils jouent à Clash of Clans, un jeu gratuit.
Vous dites
Clash of Clans. C'est ce qu'on appelle un free-to-play, donc c'est gratuit. Mais pour pouvoir avancer, il va falloir payer ou alors attendre très longtemps. Le temps, c'est de l'argent. Hein, l'efficacité, la productivité de notre société, les services numériques l'ont bien compris. Donc qu'est-ce qu'on vous propose ? Du gratuit à condition que vous visionniez des pubs, que vous attendiez je ne sais pas combien d'heures avant de débloquer telle ou telle chose. Bon, un adulte, déjà, la frustration, il a du mal à la gérer. Un enfant, n'en parlons pas. Clash of Clans, au bout de 2 semaines de jeu, il faut attendre 2 semaines pour que ces murailles se construisent. 2 semaines d'attente de temps, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'il va faire l'enfant ? Soit il va payer, soit il va trouver une solution pour contourner. Un enfant qui va réussir à contourner toutes les règles d'un jeu complètement débile, mais c'est magique.
Mais il fait preuve de beaucoup d'intelligence et de créativité.
Parce qu'il se sera approprié quelque chose de débile pour en faire une démarche intelligente, à savoir la remettre en question, la critiquer, la dépasser, la contourner, la détourner. Qu'est-ce qu'on attend de plus, en fait, dans l'apprentissage d'un enfant, si ce n'est développer son appétence au savoir, sa curiosité, son envie de dépasser peut-être des limites qui lui ont été fixées à un moment. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment une personnalité va évoluer dans un cadre.